Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc on continue notre étude des chroniques. Donc ce chapitre 16 de 1 Chronique 16, il est très important puisqu'il donne l'institution du rôle des Lévites, il les établit. Et je résume rapidement pour dire que David, il donne l'exemple. Il donne toutes les pistes. Alors, si quelqu'un cherche un petit peu, mais je dois faire la louange, mais qu'est-ce que je dois faire? Ben, lisez ce psaume 105 ou ce texte de 1 Chronique 16 et regardez ce que David leur dit. Ce qu'ils doivent faire, c'est toutes ces choses-là. Et je trouve que c'est important de comprendre cela parce que des fois, les gens qui font la louange, ils pensent que c'est juste jouer de la musique. Hein? Mais c'est pas seulement faire de la musique, c'est beaucoup plus. C'est louer, c'est chanter, c'est glorifier, c'est raconter, c'est expliquer, c'est parler de Dieu, c'est beaucoup de choses. Dans la louange, on peut mettre vraiment beaucoup de choses très importantes qui ont toute leur place dans ce temps de louange. Donc, si David l'a donné comme exemple, et puis après, à partir de là, ils ont vraiment construit là-dessus. Alors, dans la suite de l'étude, chapitre 17, on voit que David, c'est le titre du chapitre, désire construire une maison en l'Éternel. Il a commencé par les Lévites, et ça, pour moi, c'est un principe aussi très important. On met d'abord en place la louange, et ensuite, on construit un bâtiment autour, ou une institution, ou une œuvre, mais toute œuvre doit commencer dans la présence de Dieu, dans l'écoute de sa présence, dans l'adoration de Dieu, avant qu'il y ait quoi que ce soit. Parce que des fois, on veut construire une œuvre, puis après mettre Dieu dedans, c'est beaucoup plus difficile. Une fois qu'il y a toutes les structures et toute l'organisation, si on a oublié Dieu au départ, ça va être dur de le mettre après. Mais là, il commence avec Dieu d'abord. Donc, David est vraiment très au clair sur ce qu'il veut. Et au verset 24 du chapitre 17, il le dit clairement, cette maison, hein, qu'elle subsiste afin que ton nom soit à jamais glorifié, que l'on dise « L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël est un Dieu pour Israël » et que la maison de David, ton serviteur, soit affermie devant toi. David veut construire une maison afin que son nom soit glorifié à jamais, donc sans cesse. C'est un lieu pour ça, pour une louange continuelle. Et que l'on dise que l'Éternel est le Dieu d'Israël. Si on doit connaître Israël, c'est à cause de Dieu. Les autres nations, s'il parle d'Israël, doivent dire « C'est le Dieu d'Israël ». C'est la réputation que David veut. Il aurait pu fonder une autre réputation. Il aurait pu dire l'armée du grand roi David, le pays des soldats vaillants, le pays des grands guerriers de l'Éternel. Non, c'est le pays où le Dieu de l'Éternel se glorifie. Hein. Et c'est pour ça qu'il construit cette maison. Et pendant tout ce temps, David continue son travail de préparation de l'arche et en même temps, les Lévites font leur travail. Pour le temps, le temple n'est toujours pas construit. Ouais. Mais on va un peu plus loin dans le chapitre, verset chapitre 23. David a déjà passé beaucoup de sa vie. Il y a eu différents combats, différents événements dans sa vie. Mais là, il va commencer à préparer Salomon à la suite du travail. Et à ce moment-là, il dit, David, verset chapitre 23, âgé et rassasié de jour, établit Salomon, son fils, roi sur Israël. Il assembla tous les chefs d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites. Et on fit le dénombrement des Lévites, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus. Donc il présente à Salomon son œuvre, son travail. Il dit, voilà, Salomon, tu vas reprendre bientôt la royauté, le travail du temple, mais c'est important que tu comprennes qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mis en place. Et ce qui est important pour moi, c'est ces Lévites. Et regardez verset 5, il y a 4000 comme portiers et 4000 chargés de louer l'Éternel avec les instruments que j'ai faits pour le célébrer. Vous imaginez, 4000 personnes à plein temps dans le service de la louange du temple. Et il n'y avait pas des millions d'habitants en Israël, hein? Peut-être 1-2 millions, mais pas 50 millions. 4000, c'est énorme comme chiffre. Et il y en avait encore d'autres, hein? 24 000 pour veiller aux offices, 6 000 contre magistrats. Donc, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de travail. Mais en tout cas, 4000 qui sont là au service de la louange et de l'adoration. Ça montre l'importance que David met, l'accent. Parce qu'il paye le prix, il faut les payer ces gens. Il faut les nourrir, il faut s'en occuper. Et pour lui, c'est fondamental. Et ensuite, ben, il leur donne, il rappelle, tout le chapitre 23 parle de leur fonction. Donc je passe rapidement dessus, mais toute la fonction est expliquée, le travail, pas seulement le travail de la louange. Vous savez, moi j'ai des gens qui veulent s'engager dans la louange, qui disent, moi je veux jouer, je veux chanter, mais c'est tout. Je vais arriver devant le micro et chanter. Mais on voit, les Lévites, ils faisaient pas que ça. Ils faisaient tout le travail de nettoyage, d'entretien, de préparation, d'organisation, de répétition. Et n'importe qui veut avoir un ministère, on sait très bien, il y a un prix à payer. Il y a un engagement à payer. Et moi, je crois que les gens qui vont être bénis dans la louange, dans le service de l'adoration, c'est parce que c'est des gens qui sont serviteurs et qui vont s'engager aussi. Donc, si tu veux servir dans la louange, tu dois venir à la répétition. Tu dois venir avant au culte. Tu dois préparer la sonorisation. Tu dois préparer les instruments. Tu dois te préparer toi-même, préparer ton cœur. Peut-être venir à d'autres réunions. Il y a tout un travail qui est là. Hein? Et c'est ce que faisaient ces Lévites. Et regardez verset 30 du chapitre 23. Ils avaient à se présenter chaque matin et chaque soir afin de louer et de célébrer l'Éternel. Il y a des gens, ils veulent servir dans la louange. Ils disent, mais bon, une fois par mois, ça suffit. Parce que je ne veux pas faire trop quand même. Bon, il y a des fois des réalités professionnelles, familiales qui peuvent expliquer certaines choses, mais je crois qu'il y a un engagement qui est nécessaire à donner. Et puis maintenant, on arrive au chapitre 25, qui est très important. Ça, c'est un chapitre fondamental pour nous aider à bien comprendre. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Azaph, Héman et Yedutum, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Donc David fait un grand rassemblement, encore important, avec les chefs de l'armée. Donc s'il y a les chefs de l'armée, les colonels, les généraux, les maréchaux, les adjudants, tout ce que vous voulez, important, c'est une décision importante. Hein. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre les fils Azaph, Héman et Yedutum. C'était les premiers que David avait appelés. On a vu dans Chronique 6. Hein. Donc c'est la deuxième génération. C'est les pères qui sont là. C'était dans 1 Chronique 6 au début, on avait vu. Hein. Puis là, ils sont dans 25, on les retrouve. Mais maintenant, il y a leur fils. Alors, chapitre 2, on a le nom. Les fils d'Azaph, Zakour, Joseph, Netanya, Asherelela. Les fils d'Azaph, sous la direction d'Azaph, qui prophétisaient suivant les ordres du roi. Maintenant, les fils de Yedutum, il a 6 fils. Je laisse les noms. Sous la direction de leur père Yedutum, qui prophétisait avec la harpe pour louer et célébrer l'Éternel. Maintenant, les fils d'Héman, lui, il a bien travaillé. Il a 14 fils. Et tous les fils d'Héman qui étaient voyants du roi pour révéler les paroles de Dieu et exalter sa puissance. Écoutez maintenant, verset 6. Tous ceux-là étaient sous la direction de leur père pour le chant de la maison de l'Éternel et avaient des cymbales, des luths, des harpes pour le service de la maison de Dieu. Azaph, Yedutum, Héman recevaient les ordres du roi. Ils étaient au nombre de 288, y compris leurs frères exercés au chant de l'Éternel, tous ceux qui étaient habiles. Donc, je crois que là, ce chapitre, ça, c'est l'institution de la première école de louange. École prophétique de louange. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas encore l'école comme on la connaît maintenant. Quand on voulait apprendre un métier, on travaillait avec son père. Le père est charpentier, le fils est charpentier. Le père ici, il est musicien, le fils va être musicien. Il va lui apprendre son métier. Et il lui apprend à construire les instruments, parce qu'il fabrique les instruments eux-mêmes. Donc, il les fabrique, ils connaissent bien leurs instruments. Ils apprennent à jouer des instruments. Il est dit qu'ils sont habiles, donc ils savent bien jouer, bien chanter. Et même, ils leur apprennent à prophétiser. C'est une école prophétique. Hein? Et vous savez, je pense que vous avez tous fait l'expérience aussi, que la prophétie, ça peut aussi s'apprendre. Et qu'il y a des gens qui prophétisent faux ou mal et qui sont vraiment à côté de la place. Et d'autres qui sont vraiment des vrais prophètes de Dieu qui annoncent la parole de Dieu avec autorité et sagesse. Et là, c'était tellement bon de voir qu'il y avait une école prophétique avec des pères prophétiques, avec des pères prophètes qui enseignent à leurs fils, qui encadrent leurs fils. Et en même temps, regardez le nombre, c'est pas réservé à une personne. 288 chantres, musiciens, prophètes, artistes, habiles, doués et capables. Avec ça, vous pouvez faire des réunions tous les jours. Hein? Chacun prend un moment de louange, et puis après il y en a un autre, et puis après il y en a un autre, et on peut continuer. C'est pas juste une personne exceptionnelle qui a quelques dons, c'est beaucoup d'hommes qui ont été formés, cadrés, enseignés, et qui peuvent servir dans le ministère. Et ça, c'est ce que David a mis en place. Après une génération, vous voyez, il a choisi 3 au début. Hein. Après, il y en avait beaucoup d'autres. Et puis, finalement, il y a 288 leaders qui sont là pour enseigner, pour diriger. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Et qu'on a souvent, je pense, qu'on a trop négligé. On a laissé les gens un petit peu se débrouiller tout seuls. On dit, on verra bien s'ils sont capables de chanter ou de jouer. Puis peut-être qu'une fois, ils pourront prophétiser. Mais là, ils ont enseigné ces choses. Hein. Ils ont appris ces choses. Et je crois que si vous êtes aussi dans une école biblique, c'est pour apprendre les principes de Dieu et pour progresser dans les principes de Dieu. Et c'est très important d'apprendre pour pouvoir servir au mieux. Donc, ça veut dire aussi que, finalement, beaucoup de gens peuvent exercer le ministère beaucoup plus qu'on croit. Il suffit de s'engager, de servir et d'être fidèle là où Dieu nous a appelés. Hein. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce principe-là, c'est qu'il y a un respect des pères, un respect des fils, et qu'ils travaillent entre générations. Vous savez, quand il y a une nouvelle génération qui arrive, souvent ils renient l'ancienne génération. Ils disent « Oh, les vieux, ils ont fait faux, ils n'ont pas fait bien, ça c'était pas juste, nous on va faire mieux. » C'est pas facile de faire mieux. Et surtout, si tu renies ceux qui étaient là avant toi, tu vas pas arriver à faire mieux. Dieu va te bénir toujours au travers de la génération qui a précédé. Donc, il faut respecter ceux qui étaient avant toi. Et on a beaucoup à apprendre de ceux qui étaient là. Et David le transmet son onction, transmet son expérience à ses chefs de Lévite, à ses chefs chantres. Et eux, ils les transmettent plus loin aux autres. Donc voilà, Salomon, il a compris. Maintenant, il a des bons exemples pour pouvoir continuer, puis aller plus loin. Et puis ensuite, on arrive au chapitre 28 et 29, où là, c'est vraiment la transmission de témoins, où David sent qu'il arrive à la fin de ses jours, et il donne vraiment tout à Salomon. Et il rassemble tout le peuple pour faire une grande annonce. Ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas les emails, ils n'avaient pas les posters, donc il faut que tout le monde vienne à un endroit pour pouvoir entendre. Donc devant tous, il donne des principes très très important, il leur donne ce qu'il a fait de sa vie. Donc, chapitre 28, verset 9, il parle à Salomon publiquement. Hein. « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. » Fortifie-toi et agis. Donc, c'est le verset 9, chapitre 28. Hein? Et ensuite, donc, ça c'est une parole d'encouragement, une parole de défi, une parole de direction pour son fils Salomon. Mais ensuite, dans le chapitre 29, c'est un chapitre que j'aime vraiment beaucoup, qui me semble très fondamental aussi pour la louange. Il explique vraiment toute sa vision. C'est la fin de sa vie, donc c'est son testament. Vous savez, quand quelqu'un va mourir, on pense que ce qu'il va dire, les dernières paroles vont être importantes. Hein. On dit, là, il faut que j'aille voir cet homme parce que je sais qu'il va bientôt partir. Qu'est-ce que tu vas me dire? Et là, cet homme va dire le meilleur. Et là, il le dit à tout le peuple. Et on va lire ça ensemble. Chapitre 29 de 1 Chronique. Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible et l'ouvrage est considérable. Car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. » Il dit bien les choses. Hein. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être de l'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres enchâssées, des pierres brillantes et diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses, du marbre blanc en quantité. De plus, de mon attachement pour la maison de Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3000 talons d'or d'Ophir, 7000 talons d'argent épuré pour en revêtir les parois du bâtiment, l'or pour ce qui doit être d'or, l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Donc là, on voit déjà David, qui est incroyable. Il a déjà donné toute sa vie pour Dieu. Et à la fin de sa vie, il donne encore tout. On dirait que ça peut être peut-être facile parce que c'est la fin de sa vie, mais en même temps, on sent que c'est d'un cœur volontaire et total. Et il décrit tout ce qu'il donne. Et il montre l'exemple, une fois de plus. Comme on l'a vu avant, il m'a montré l'exemple pour la louange. Là, il montre l'exemple pour les offrandes. Et ensuite, il peut demander aux autres, qui veut donner? Moi, j'ai tout donné. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et voilà la suite. Je lis verset 6. Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers, des centaines, des intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 d'aric, 10 000 talents d'argent, 10 000 talents d'airain et 100 000 talents de fer. Ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel entre les mains de Yehel le Guershonite. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'ils les faisaient à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Dans la louange, dans l'adoration, il y a toujours l'offrande qui va avec. C'est pas pour rien qu'on fait souvent l'offrande pendant la louange. Mais des fois, c'est un petit peu utilisé d'une manière pas toujours très sage. Mais c'est le même esprit qui doit être là. Tu donnes ta louange à Dieu gratuitement. N'est-ce pas? Dieu veut pas acheter ta louange, mais tu la donnes parce que tu l'aimes. Tu choisis de lui donner ton amour, ta prière, ta louange, tes chants, ton affection. Et en même temps, tu peux donner du matériel concret, l'argent. Et là, c'est ce qu'ils font volontairement, sincèrement et dans la joie. On sait très bien que celui qui donne pas avec joie, il sera pas béni. Et Dieu est reconnaissant de cette joie. Et David le montre bien en disant qu'il se réjouit de cela. Alors, du coup, David, il continue. David bénit l'assemblée, bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout, et c'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers, des habitants comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. L'Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous t'avons préparées pour te bâtir une maison à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Donc David, il fait une prière de louange merveilleuse déjà. Il dit que tout est à Dieu. Pourtant, c'est le roi. Imaginez la position. C'est pas n'importe qui. C'est pas juste un petit prêtre, hein. C'est le roi d'Israël qui parle. Donc, sa parole, elle a de l'autorité. Et devant tout le peuple, il dit, je suis roi, mais il y a un plus grand roi que moi, finalement. Hein. Et à l'époque, le roi, c'était quasiment un dieu. En tout cas, dans toutes les autres religions autour d'Israël, le roi était dieu. Pharaon, c'était un dieu. Les rois de Babylone, c'était des dieux. Donc, il a une position très élevée. Mais lui, il dit, toute la gloire à Dieu. Toute la gloire à Dieu. Toute la gloire à Dieu. Alors, c'est tellement facile pour lui de prendre la gloire pour lui-même. Quand même, un grand roi comme ça. J'ai combattu les Philistins, j'ai combattu Goliath, j'ai eu la victoire sur tel ennemi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il aurait pu faire un grand résumé de son œuvre. Et il oublie tout ça. Et il donne seulement la gloire à Dieu. Vous voyez la puissance et l'autorité de cette parole. Et en plus, il dit, tout vient de toi, nous recevons de ta main tout ce que nous t'offrons. Hein? Je ne suis rien. Toi, tu es tout. C'est ça que ça veut dire. Sans toi, je suis rien. Tout ce que je suis, c'est à cause de toi. Et c'est d'autant plus fort quand tu as une position d'autorité. Je crois qu'on peut tous faire cette prière et qu'on devrait tous pouvoir la faire. Seigneur, si je suis quelque chose, c'est grâce à toi. Et je te remercie de la place que tu me donnes, mais tout ça, je te le redonne. Comme dit le psaume 115, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Non pas à nous. C'est tellement facile de prendre un petit peu de gloire. Oh, bien sûr, je fais ça pour le Seigneur. Mais c'est aussi un peu pour moi, ou grâce à moi. J'ai bien travaillé, je suis un bon pasteur, j'ai la meilleure église. Hein? Ça marche pas comme ça. David, il a vraiment compris. Il donne tout à Dieu. Et il donne un exemple très clair à Salomon, son fils, et au peuple tout entier. Et il peut vraiment montrer la direction. C'est un testament, je trouve, extraordinaire. Testament le plus proche que je connaisse de la pensée de Dieu dans l'Ancien Testament, où vraiment toute la gloire revient à Dieu. Il n'en a rien pris pour lui. Et ensuite, c'est la fin de sa vie. Il bénit le peuple, il bénit Israël et il meurt. Donc, voilà ce que le peuple va retenir de David. Bien sûr, il a fait des erreurs dans sa vie. Bien sûr, l'histoire nous raconte aussi ses échecs, ses défauts. Mais on voit qu'en tout cas, il finit très bien. Alors que beaucoup d'autres rois ont fait des exploits, mais ils ont très mal fini. Salomon lui-même et beaucoup d'autres. David, il a bien fini parce qu'il a compris que malgré ses échecs et ses erreurs, et malgré ses réussites, parce qu'autant une erreur peut être un piège, autant une réussite peut être un piège. Parce que quand tu réussis bien, quand tu es béni, ça peut être un piège. Et on voit bien le problème qu'a l'Église en Occident, où l'Église est dans un bien-être matérialiste, elle perd une bonne partie de la bénédiction parce qu'elle a bien réussi grâce à la bénédiction de Dieu. Je crois que si l'Europe en est où elle en est aujourd'hui, c'est grande partie grâce à la bénédiction de Dieu qui a changé l'histoire de l'Europe grâce à la venue de l'évangile sur notre terre. Maintenant, on perd. On garde juste les bénédictions matérielles puis on perd la reconnaissance, le fait que ça vient de Dieu. Et ça, c'est un grave danger qui nous guette. Donc là, David, il a bien su d'où venait sa richesse, d'où venait sa position, d'où venait son titre, et donne toute la gloire à Dieu. Donc David a donné un exemple merveilleux, et je crois que c'est pour ça qu'on le retient dans l'histoire. C'est pour ça qu'on le prend comme exemple dans le tabernacle. c'est le seul roi qui n'a pas eu de défaite pendant son règne. Plusieurs fois les ennemis sont venus. Plusieurs fois les ennemis ont voulu l'atteindre. Mais jamais il n'a perdu. Pourquoi? Parce que il y avait cette louange continuelle, cette gloire continuellement donnée à Dieu. Je crois que ça, c'était sa meilleure protection durant son royaume. Alors ensuite, ça continue, parce que Salomon, il a compris la leçon, en tout cas au début, il a compris ce que son père a fait, donc il termine, et assez rapidement, ils arrivent à terminer le temple. Et avec le même esprit que son père, chapitre 5 de 2 Chroniques 5, verset 6, on commence. On pourrait tout lire, mais je prends certains versets clés. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoquée auprès de lui se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni dénombrés à cause de leur multitude. Voilà l'abondance. L'esprit qu'il y avait sur David continue. Il donne beaucoup. Il donne plus qu'ils peuvent compter. C'est pas du calcul. Bon, Seigneur, tu me demandes 10%, alors je vais te donner 10%, hein. Je vais compter. Jusqu'à 10, mais pas un de plus. Non. Il va donner beaucoup plus que la dîme. Et voyez, verset 12, dans verset 11 déjà. Le temple est terminé. Ils sont prêts à agir. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les lévites qui étaient chantres, Asaph, Eman, Yedutum, ils sont toujours là, les vieux, là, hein. Ils sont encore là. David est mort, mais eux, ils sont toujours là. Et avec leurs fils et leurs frères, donc les deux générations travaillent ensemble. Revêtus de byssus se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes qui avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. 120 trompettes en même temps. Waouh ! Les oreilles, ça devait bouger là. Hein. Et lorsqu'ils sonnaient, ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer, pour louer l'Éternel, firent retentir leurs trompettes, les cymbales et les autres instruments pour célébrer l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dura toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. C'est un texte fantastique, ça, hein. Moi, j'aimerais que ça se passe tous les dimanches comme ça, hein. On prépare la louange. On organise. Chacun à sa place, chacun à son poste, on commence à chanter. Et la Shekinah de Dieu vient. La nuée descend. Tout s'arrête. Ils peuvent même plus chanter. Mais Seigneur, on avait préparé des beaux chants, là. Pourquoi on peut pas chanter? Il n'y a pas besoin de chanter. Si Dieu est là, il y a des fois, il faut mieux s'arrêter de chanter. Ou des fois même s'arrêter de prêcher. Il y a des fois où la présence de Dieu dépasse tout ce qu'on peut maîtriser nous-mêmes. Des fois, on veut quand même faire notre programme et on passe à côté. Mais là, c'est clair que c'était tellement fort qu'ils n'ont rien pu faire. Hein. Et pourtant, c'était un bon culte. C'est une bonne réunion parce que la présence de Dieu était si forte qu'ils ont juste dû rester dans sa présence. Donc pour moi, c'est pas un problème si quelquefois j'arrête de chanter. Si Dieu arrête les chants, c'est pas grave. Mais ça veut pas dire que je vais pas chanter en attendant que Dieu vienne. Je vais chanter, je vais prier, je vais louer jusqu'à ce qu'il se passe cette nuée, cette Shekinah. Hein. Et là, si vous remarquez, cette nuée qui arrive, ça arrive après une génération. David a lancé les Lévites il y a presque 40 ans. Hein. Et pendant 40 ans, ils ont loué, ils ont servi, ils ont adoré. Bon, ça peut être long, hein. Ça peut être long, mais il faut qu'il faut attendre jusqu'à ce qu'il y ait la puissance qui se manifeste. Je pense que dans sa grâce, Dieu ne fait peut-être pas attendre si longtemps, mais que parfois, il faut persévérer, jusqu'à ce qu'il y ait un fruit à notre obéissance. Et là, il y a une obéissance fidèle de David et de Salomon et des Lévites et des chantres et des manes et d'Yedutum et d'Azaph et tout ceci qui fait que ça s'est passé comme ça. Et ce qui est intéressant aussi dans ce texte-là, c'est que ils étaient là tous vraiment avec des principes très clairs. Déjà, ils se tenaient à l'orient de l'autel. Vous savez ce que c'est se tenir à l'orient? Quel est l'endroit de l'orient? C'est où l'orient, d'après vous? L'est. Et qu'est-ce qui se passe à l'est? Le soleil se lève à l'est. C'est là où il y a les choses qui commencent. Dieu nous demande de regarder là où les nouvelles choses viennent. Nous tenir dans la direction de la nouveauté. Et la parole prophétique, la pensée de Dieu, je crois que c'est d'être toujours en éveil. Où est-ce que le soleil va se lever? Ben, on sait, dans le monde naturel. Mais dans le monde spirituel, il y a des choses nouvelles qui se lèvent. Il faut être sensible et se tourner dans le bon endroit. Regardez où Dieu commence quelque chose. Ensuite, ils avaient tous mis leurs vêtements, hein? Leurs vêtements. Le byssus, c'était des vêtements en lin. Vous savez pourquoi ils mettaient des vêtements en lin? Vous savez pourquoi ils mettaient des vêtements en lin? Pour ne pas transpirer, exactement. Vous avez la référence dans Ézéchiel 44, 18. Ézéchiel 44, 18, qui dit, ils auront des tiares de fin lin sur la tête et des caleçons de lin sur leurs reins. Ils ne se ceindront point de manière à exciter la sueur. Ça veut dire que c'est un vêtement qui les aide à travailler sans transpirer. C'est bien plus agréable. Mais je crois que c'est un exemple aussi spirituel de ce qui se passe. Des fois, on veut transpirer pour Dieu. On veut tellement faire par nos efforts. Hein? Je crois que c'est important d'avoir l'habit du Seigneur qui nous permet, tout en travaillant, de pas transpirer. On travaille pour Dieu, mais on transpire pas. C'est pas nos efforts qui vont produire quelque chose. C'est sa grâce, c'est sa présence, c'est lui qui fait la différence. Hein? C'est un peu des pensées prophétiques imagées sur ce texte qui sont très importantes. Ensuite, verset 13, aussi un mot clé, ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord, ou ils jouaient à l'unisson, selon les traductions. Vous savez ce que c'est l'unisson en musique? Qu'est-ce que c'est l'unisson? Tous ensemble, c'est plus que ça. C'est tous ensemble, mais au niveau purement musical. Si je demande à des musiciens de jouer l'unisson, vous savez ce que c'est? C'est jouer sur une note, pas sur une gamme. Une gamme, c'est plusieurs notes, donc ils s'accordent sur une seule note. Et vous savez, je pense, c'est plus difficile de tous chanter la même note que de chanter plusieurs notes différentes en même temps. Si on veut chanter tous la même note exactement, c'est difficile. Vous avez déjà entendu un grand orchestre symphonique, qu'est-ce qu'ils font au début? Il y a un musicien qui joue, le premier violon, il joue une note, et tous les autres musiciens accordent leurs instruments à cet instrument-là. Pour qu'ensuite, l'orchestre sonne bien. On s'accorde musicalement pour que ça soit agréable à l'oreille. Parce que vous savez, quand il y a une note qui est juste, puis une autre qui est juste pas un peu en dessous, un peu en dessus, ça frotte les oreilles. En tout cas, pour moi qui suis musicien, ça me... Hein? Je pense aussi pour vous, quand c'est faux, ça dérange, on sent un malaise. Quand c'est juste, on se sent à l'aise. Donc l'unisson en musique, ça se travaille. C'est pas facile. Mais des bons musiciens, ils vont tout de suite réussir à s'entendre, à s'écouter et à jouer la même note. Et même des chanteurs, sans instrument, si vous devez chanter une note, chanter, écouter, il faut pas juste chanter sa voix, il faut écouter la voix de l'autre. Donc ça demande un effort des deux côtés. On pense pas qu'à ça, on pense, ah, comment il chante lui? Quelle est la voix? Je vais écouter et je vais chanter. Donc l'unisson, il est très important dans la musique, mais aussi spirituellement. Et encore plus. Hein? Donc je crois qu'ils étaient dans l'unisson, c'est-à-dire qu'ils étaient en accord musical, mais ils étaient en accord spirituel. Ils étaient en accord spirituel. Ils étaient tous d'accord sur la vision. On est là pourquoi? Vous savez, dans un groupe d'anciens, de leaders d'église, ou dans un groupe de louanges, si on n'est pas en accord, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe pas, tout simplement. La chose qu'on veut ne va pas se passer, parce que nous ne sommes pas en accord. Dieu demande l'unité, et c'est clé, c'est une des clés pour que les choses se passent dans l'esprit. Et là, je crois que cette onction de Dieu est descendue, cette nuée, cette Shekinah, parce qu'ils étaient vraiment parfaitement en accord. Et je peux vous dire que j'ai déjà fait l'expérience très souvent de jouer avec tellement de musiciens, un groupe de louanges, quand on est unis dans l'esprit, quand on est unis dans la vision, quand on sait où on va ensemble, ça va très bien. Il suffit dans un groupe de musique d'avoir 6 musiciens et un 7e qui lui n'est pas d'accord, qui lui résiste, qui lui a un autre esprit, ça peut tout casser ce qui se passe. Déjà musicalement, parce qu'il n'écoute pas les autres, il veut juste qu'on l'écoute lui, il veut juste montrer ce qu'il sait faire. Hein? Si vous avez un groupe de 7 personnes, le public il va regarder juste le 7e, il va pas regarder les 6 autres qui sont très bien d'accord. Hein? Quelqu'un qui chante en dansant, un peu extraverti, juste pour montrer comment il est, ou bien quelqu'un qui avec sa guitare fait des solos tout à fait désappropriés, très forts, et juste pour qu'on le regarde avec sa guitare là, comme ça, ça marche pas quoi. Hein? Ça casse l'esprit de la louange. Donc c'est le danger pour chacun. On doit apprendre à se soumettre, à se respecter, et à être unis. Donc l'unisson, je crois que c'est une des clés pour la bénédiction de Dieu et la présence de Dieu va descendre dans nos louanges. David l'a préparé, Salomon l'a expérimenté, et ça s'est passé. Donc, je crois que c'est vraiment très, très important. Ça se passe encore, le chapitre, juste plus loin, chapitre 7, 2 Chroniques 7, à nouveau, la même chose. Lorsqu'Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Ils n'ont même pas eu besoin de faire les offrandes, c'est Dieu qui l'a fait. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent, le visage contre la terre sur le pavé, adorèrent et louèrent l'Éternel en disant, « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Ils chantent le même chant qu'avant, hein, vous avez vu? Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Il n'y a pas beaucoup de paroles, hein. Il n'y a pas 50 couplets. Ils n'ont pas eu le temps de chanter 12 chants. Ils ont chanté un refrain, une parole, mais Dieu est venu. Donc c'est pas le nombre de paroles qui va faire la différence. C'est pas le nombre de versets, de couplets, mais c'est juste de chanter la bonne chose au bon moment et donner surtout toute la gloire à Dieu. Remarquez que ces paroles, c'est à toi la gloire. Un des problèmes que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de chants qui sont des chants de louange, mais qui sont tournés vers nous au lieu d'être tournés vers Dieu. Ça, c'est des chants qui sont tournés vers Dieu. Louer l'Éternel, sa miséricorde, ça parle de Dieu, c'est Dieu, c'est pas moi. Si on est tourné vers nous-mêmes, c'est plus la louange. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, touche-moi. Finalement, il y a plus de moi que de Dieu. Moi, 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 moi. À la fin, qu'est-ce qu'on entend? Dieu, il dit, mais ok, c'est toi le Dieu alors. Tu chantes pour toi, pour que tu sois toi le meilleur, le plus beau, le plus fort. Mais moi, je suis où? Hein, heureusement, dans sa grâce, Dieu nous bénit encore dans ces moments-là. Et souvent, il fait encore descendre sa grâce pour nous bénir. Mais il y a un moment où on doit détourner du moi et tourner vers Dieu. Et commencer à dire toi, 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 et plus moi, moi, moi. Et ça, pour moi, c'est le cri de mon cœur sur la louange dans l'Europe. Revenez à une adoration qui adore Dieu. Pas l'homme, pas l'église, pas la situation, pas les besoins de l'homme. Mais c'est lui qui mérite cette louange. Donc, moi, on en parlera, mais dans le choix des chants, quand je prépare la louange, quand je dirige la louange, je fais très attention. Est-ce que ça va vers moi ou est-ce que ça va vers Dieu? Dans quelle direction je vais? Et là, ces chants-là, ils allaient vraiment, vraiment vers Dieu. Voilà. Donc, dans les chroniques, ça continue. Il y a tout un travail qui se fait. Il y a ensuite des autres rois qui viennent. Il y en a qui font du bon travail. Il y en a d'autres qui font du mauvais travail. Il y en a qui se rapprochent. Il y en a qui s'éloignent. Il y en a qui continuent d'appliquer les principes de David. D'autres qui le font pas. Alors, on a un exemple très fort dans 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20, vous connaissez sûrement cette histoire. C'est l'histoire du combat contre les Moabites. Et il y a des ennemis qui viennent contre Israël. Et c'est le roi Josaphat qui est roi à ce moment-là. Et là, il fait quelque chose de très important. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. C'est 2 Chroniques 20, verset 3. Là, il a une bonne réaction. Il était loin de Dieu. Et chaque fois qu'on s'éloigne de Dieu, on ouvre la porte à l'ennemi. L'ennemi vient, il attaque. Et on peut réagir en se plaignant, en disant voilà, ou en revenant au principe de la parole de Dieu. Et là, il se met devant le Seigneur et il dit, verset 6, « Éternel Dieu de nos pères, n'est-ce pas toi, Dieu dans les cieux, n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations, n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance à qui nul ne peut résister ?» etc. Et tout d'un coup, il recommence à adorer Dieu et il invoque la présence de Dieu, il rappelle les promesses de Dieu. Hein. Donc, il y a un retour à l'Éternel. Ça, c'est très important. Quelle que soit la situation, revenir à l'Éternel, dans la présence de Dieu, dans l'adoration. Incroyable. Ce qui se passe, verset 14, deuxième point. Alors, l'Esprit d'Éternel saisit au milieu de l'assemblée, Jacaziel, Zacharie, etc. Plusieurs prophètes parlent. Quand tu ouvres les cieux par la louange, par l'adoration, l'Esprit prophétique est ouvert. L'Esprit prophétique peut se manifester. Sûrement que ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas loué comme ça, et pas adoré, et pas écouté Dieu comme ça. Et à ce moment-là, la prophétie les encourage. Verset 15, à moitié du verset 15, « Ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Waouh ! Promesse merveilleuse. Alors, Dieu va faire quelque chose. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Du moment qu'ils ont compris la parole de Dieu, verset 18, « Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. » Les Lévites, dont les fils des Kéatites et ceux des fils des Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte, à haute et haute, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, le roi, une fois de plus, montre l'exemple dans l'adoration. Et les Lévites suivent. Ils montrent l'exemple même aux Lévites, même aux professionnels de la louange. Hein. Les Lévites suivent et ils adorent. Donc, avant la victoire, vous avez remarqué ça? Ils sont encore pas combattus, l'ennemi est toujours là. Mais ils adorent déjà. Et ça, c'est un principe très important. Comprendre qu'on peut adorer avant la solution. Avant la restauration, avant la guérison. Tellement de gens me disent, tu sais, si Dieu intervenait, je le louerais. Si seulement il se passait ça dans ma vie, je pourrais le louer. Non, loue-le déjà. Ça va arriver. Mais loue-le déjà. Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu change pas. Et c'est très, 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 très important. Là, ils ont encore passé une nuit. Le lendemain matin, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Donc, il leur redonne confiance, une parole d'encouragement. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, qui marchaient devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Dieu leur a donné une stratégie incroyable. Il a dit, vous n'allez pas au combat avec des épées, vous allez avec la louange. Et vous mettez la louange devant. Encore une fois, face à l'ennemi, l'adoration devant. C'est incroyable ça. Hein? Les adorateurs vont devant le chemin et ils ont laissé leurs épées. C'est une autre arme que Dieu leur a donnée. C'est une arme qui demande beaucoup de foi et beaucoup de confiance. Hein? Parce qu'en même temps, c'était tous des soldats. Ils savaient ce que c'était la guerre. Ils savaient ce que c'était les épées. Ils connaissaient leur ennemi. Et Dieu leur dit, non, laissez ces choses de côté, vous allez avec la louange. Et voilà ce qui se passe, ils le font, hein? La louange devant l'ennemi. Au moment où l'on commençait les chants de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Seir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Victoire totale, victoire parfaite, avec une seule chose, la louange. Mais en fait, ce que ça nous enseigne, c'est l'obéissance. Non seulement ils ont loué, mais ils ont obéi à ce que Dieu leur disait. Et c'est intéressant de dire aussi, au moment où l'on commençait, ils n'ont pas dû chanter pendant 3 heures, et quand ils avaient plus de souffle, tout à coup, Dieu est intervenu. Au moment, ça a déclenché l'intervention de Dieu. La louange a déclenché une puissante victoire. Et l'ennemi s'est battu entre eux. Hein? Et qu'est-ce qui fait la différence? Dieu n'a pas toujours donné cette stratégie-là. Il leur a donné chaque fois une autre stratégie. Vous avez remarqué dans le combat, dans l'Ancien Testament. Mais là, cette stratégie, elle était claire et importante, parce que ça voulait dire quoi? Ça voulait dire... C'est Dieu qui a tout fait. Parce que vous savez, des fois, Dieu leur a donné des stratégies de combat. Ils ont été avec Gédéon, avec 300 soldats, ou d'autres situations, avec une armée. Ils ont combattu, Dieu les a aidés, mais ils ont quand même combattu. Là, ils n'avaient même pas d'armes. Ça veut dire qu'on n'a rien fait. Parce que vous savez, des fois, Dieu nous aide, et puis on se souvient quand même qu'en nous, on a fait quand même une bonne partie du travail. Hein? Puis au bout de quelques années, on oublie que c'est Dieu qui nous a aidés, puis on dit c'était quand même nous, les bons soldats. Hein? On était forts, on s'est bien battus. Là, ils ne pouvaient rien garder comme crédit personnel. Dieu a tout fait. Ils n'ont rien fait, juste chanter. Et pourquoi aujourd'hui on cite encore ce texte? On l'utilise encore dans la prière, dans le combat spirituel, dans l'application de nos vies, parce que Dieu a tout fait. Mais ils ont quand même dû faire une chose, c'est de le louer, de célébrer, de l'adorer, de lui faire confiance. Donc je crois que c'est un grand principe qui est valable pour nous aujourd'hui, dans des situations de difficulté, de combat, de lutte, de mettre la louange. Mais encore une fois, selon la stratégie de Dieu par rapport à chaque situation, mais en tout cas, ça reste comme principe juste. Dieu se glorifie, manifeste sa puissance, manifeste sa victoire au milieu des louanges de son peuple, et l'ennemi fuit devant la louange. Hein? L'ennemi n'aime pas cette louange, n'aime pas cette adoration, et parfois, ben, il doit quitter à cause de cela. Donc voilà une bonne manière de combattre et de garder foi dans ce que Dieu peut faire. Et la louange est puissante pour le faire. Oui?
C'est un peu par rapport à David et puis à Salomon. Mm-hmm. Parce qu'avec le reconstruit, ouais. C'est simplement le tout simple tabernacle d'Ève.
Ouais. Ouais, je crois que c'est juste. Ben, je vais donner un message là-dessus demain ou jeudi, donc en entier. Mais je peux déjà répondre à quelque chose en disant, je crois que la différence, c'est le cœur. Donc Salomon, le temple qu'il a fait, c'était sur les plans de David. Donc, Dieu n'a pas un problème avec le temple fini, mais il a un problème avec ce que Salomon a fait après. Après, il a oublié cela, puis il a même laissé tomber. Dès que David, la différence, c'est que son cœur était droit, et puis qu'il a toujours continué selon ce principe-là, quoi. Il ne s'est pas arrêté. Je pense que Salomon, il est entré déjà dans le religieux, dans l'habitude. Et c'est toujours le problème de la deuxième génération après la première génération. La première génération reçoit le feu, reçoit l'onction, reçoit la direction de Dieu. Et puis les autres, s'ils renouvellent pas cela, ils vont juste copier. Et Dieu, ça marche pas avec la copie. Hein. Il faut garder un cœur pur avec lui, un cœur en relation avec lui et faire ce qu'il nous demande. Donc David, c'est vrai, la Bible dit qu'il avait un cœur selon le cœur de Dieu. Donc c'est ça qui fait que aujourd'hui on parle toujours du tabernacle de David. Parce que c'est le seul qui a continué jusqu'à la fin de sa vie et qui a permis que cette louange se fasse et qui a commencé avant que le temple soit là. C'était peut-être aussi le piège. Justement, Salomon, il avait tout qui allait bien et puis il a perdu ce qu'il avait. Alors que David, il avait rien, puis il a construit quelque chose de bien. Et je pense que pour nous tous aussi, c'est un piège. Hein? Quand on voit aussi ça dans le monde des affaires, des entreprises, il y a des fois des hommes qui construisent une entreprise, ils travaillent toute leur vie, ils arrivent à une entreprise merveilleuse, ensuite ils donnent à leur fils et le fils détruit ce que le père avait tout construit parce que lui, il n'a pas fait l'effort. Il reçoit tout en héritage, puis il sait pas le prix que ça a coûté, les efforts, le travail. Et il profite juste des bénéfices, il dépense l'argent et il perd. Et je crois que là, entre Salomon et David, c'est un peu la même chose. David a fait des efforts pour construire, il a sacrifié sa vie, ses richesses, et Salomon a profité de sa situation de roi, de richesse, d'établi tout de suite, et malheureusement, il est tombé. Donc, c'est vrai que c'est assez parlant, quoi, hein. Et ce qui compte, c'est pas, encore une fois, David, avant même que le temple soit là, il louait déjà. Il y avait juste une petite tente, il le faisait. Mais Dieu n'était pas contre qu'il construise un temple. Donc je ne crois pas que le problème est dans le bâtiment, dans la qualité ou pas, mais dans la qualité des cœurs. La qualité, parce qu'avec Salomon, il y a eu la présence de Dieu, il y a eu la Shekinah qui est descendue aussi avec Salomon. Donc Dieu a approuvé toute cette période de sa vie à Salomon. Et puis là, c'était vraiment au point, la technique, la musique, le temple, tout était magnifique et Dieu était d'accord avec ça. Mais ça, c'est aussi ça qu'il a perdu. Parce qu'après, il a voulu garder seulement ça, et pas le cœur, et pas la relation. Voilà.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.